Nous accueillons tout de suite Franck. Bonsoir Franck.
Bonsoir madame. Voilà, bah écoutez, j'aime bien que vous parliez de différence, parce que ce que je viens d'entendre de Nicolas, je crois, c'est ça, ou Sébastien.
Christian.
Christian, voilà. Excusez-moi, Christian. Je vous ai bien écouté, mais j'ai été tellement pris par son discours que ça m'a effaré.
Ah, pour quelle raison?
Oui, parce que moi, je fais partie de l'Île-de-France.
Oui.
C'est la petite cigogne qui m'a posé là. J'y suis pour rien. Je suis né dans le 16e arrondissement, mais j'y suis resté 2 jours. C'était la maternité de mes parents.
Elle fait ce qu'elle peut, vous savez.
Oui, elle fait ce qu'elle peut. Elle avait peut-être bien visé, mais j'y suis pas resté. Alors, je suis pas devenu chirurgien.
Oui.
J'ai été longtemps, étant dans une famille d'enseignants, j'ai voulu jusqu'à 30 ans ne pas devenir enseignant. Donc, j'ai un peu galéré, quoi. Je fais de l'animation. Depuis l'âge de 14-16 ans, j'ai passé mon BAFA à 16 ans, mais j'ai fait de l'aide à l'enfance avant,
d'accord,
de l'associatif tout le temps. Je ne suis pas devenu chirurgien, je suis devenu simplement enseignant spécialisé.
Très
c'est
bien.
C'est-à-dire que je suis psychologue scolaire, et sauf
d'accord,
que j'ai refusé de passer le diplôme de psychologue scolaire, puisqu'on me refusait de garder à mi-temps ma classe d'élèves en SECPA. Les élèves en SECPA étant des élèves de collège en grande difficulté.
D'accord.
Ah voilà. Troubles associés, comme on
voilà,
dit.
Voilà, d'accord. Donc là, on est vraiment sur du cognitif.
Tout à fait, ouais, à l'autre bout. Et pourtant, moi, j'arrive quand même à +7. Et bon, je ne pourrais pas être chirurgien.
Ça, oh, mais je sens que ça vous a marqué, ça.
Hein. C'est pas à ma valeur.
Ouais.
Mais je veux dire par là que moi, je n'ai pas de toit à me perturber. Parce que je n'ai jamais été propriétaire. Dans ma famille, on n'a jamais été propriétaire.
Oui.
Donc,
Et puis Franck, juste petit aparté, Christian n'est pas chirurgien. Il nous a expliqué qu'il avait une entreprise, qu'il côtoyait des chirurgiens de mémoire,
voilà,
mais il n'est pas chirurgien.
Oui, il était chef d'entreprise.
Voilà, absolument.
On va dire quand même un peu de l'autre côté du manche du couteau.
Si vous voulez.
Parce que moi, j'ai eu à faire des chefs d'entreprise, mais parce que je mettais mes élèves au travail.
Mm-hmm.
Et parce que c'était ma fonction et que j'en étais fier. De même s'ils ils arrivaient juste au niveau 5, hein, comme on disait à l'époque. Hein, moi, je suis à la retraite, j'ai 67 ans. Et c'est pas ma première. C'était pas. Je ne tiens pas à prendre polémique avec Christian, parce que ça montre d'ailleurs qu'il y a deux façons de vivre la vie.
Voilà. Hein,
moi,
qu'est-ce qui vous fait réagir?
Campagne, il est heureux,
oui,
il a son projet. Moi, justement, je me retrouve sans projet. Voilà. Et sans projet, ça fait 5 ans que je suis dans une maison de retraite. Donc, j'y suis arrivé de bonne heure. Hein.
Mais oui, parce que vous semblez jeune. Vous avez quel âge, si je puis me permettre?
67, je suis né en 54.
Donc, vous avez 64 ans? D'accord.
Non, je suis né en 54.
Ah, pardon. Vous êtes né en 54. D'accord.
Mon anniversaire cette semaine. Voilà.
Eh bien, écoutez,
j'en dis pas plus, n'allumez pas les bougies.
Non,
il y en aura trop sur le gâteau.
On aura une pensée pour vous, Franck.
Voilà. Non, mais ce que je tiens à dire, c'est que l'empathie, ça peut se partager autrement. L'empathie, moi, je l'ai partagée avec mes élèves tout le temps, quitte à éponger tout le malheur humain. Toutes les différences sociologiques et économiques, sociales, l'immigration même, hein, j'en ai rempli mes classes de ça.
Oui.
J'ai eu 4 continents dans ma classe en permanence. Il n'y a que la Nouvelle-Zélande et l'Australie que je n'ai pas touchées.
Effectivement.
Ou qui ne m'a pas touché.
Ou voilà, ou qui ne vous a pas touché plutôt.
Voilà.
Alors, juste une chose.
Sûrement parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi.
Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot empathie ?
Alors, pour moi, l'empathie, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir enseigner. C'est-à-dire ne pas être en sympathie.
Absolument.
Parce que c'est pas possible. Il faut mettre une différence. La sympathie, c'est bon pour l'amitié, par exemple. C'est bon pour les proches, les voisins, les cousins, les cousins éloignés même, ou les voisins proches d'un palier. Hein, parce que moi, j'habite en HLM, forcément. Je suis en région parisienne. Donc moi, je suis plutôt du niveau vertical qu'horizontal.
J'aime beaucoup l'image.
Donc, mon empathie, elle est là.
D'accord.
Mon empathie, elle a été pour mes élèves. C'est-à-dire que si je n'ai pas un minimum d'empathie pour un élève, et j'ai travaillé pour l'éducation surveillée, je peux vous dire qu'il n'y a eu une seule fois où je n'ai pas pu avoir d'empathie. Mais heureusement, nous étions aidés à l'éducation surveillée à l'époque par des psychiatres, et nous avions une réunion hebdomadaire où on pouvait verbaliser le pourquoi du comment. Et là, il se trouvait que c'était un élève qui avait écrasé volontairement son petit frère contre la porte du garage.
D'accord.
Et moi, ça ne s'est pas passé.
Oui, en effet. Alors, je me suis permis cette question parce que vous avez dit que, là, tout à l'heure, que vous aviez fait preuve d'empathie jusqu'à éponger, parfois, et justement, c'était éponger.
Oui, éponger.
On est dans la sympathie quand on éponge. Je le dis tout le temps pour rappeler aux auditeurs, et vous l'avez divinement bien expliqué, que, en fait, on confond beaucoup la sympathie et l'empathie. Et donc, la sympathie, c'est vraiment être une éponge, finalement, alors que l'empathie, c'est comprendre l'émotion. Donc, merci infiniment de nous avoir expliqué.
J'étais plus en sympathie qu'en empathie, alors.
Alors, la vraie définition de la sympathie, c'est finalement ce que nous avons tendance à donner comme définition de l'empathie. Donc, la sympathie, c'est ma capacité à me mettre à la place de l'autre, donc d'absorber son émotion. Et forcément, quand j'absorbe l'émotion de la personne qui est en face, je ne peux plus avoir de libre arbitre. Je suis totalement pris par l'émotion de l'autre, donc que ce soit la joie, la tristesse, la colère,
c'est ce
etc.
qui m'est arrivé. Voilà. Là, vous avez les mots justes.
Donc vous étiez en sympathie et là on est une éponge. Alors que l'empathie, c'est comprendre l'émotion de l'autre et là on se protège. Donc avec un accusé de réception très simple qui est de dire à quelqu'un j'entends. Voilà, d'accord. Donc vous étiez souvent.
Je n'ai pas fait ce discernement.
Donc, vous étiez souvent en sympathie.
Ça a duré 35 ans.
Ah.
Et ça s'est mal terminé, bien sûr.
Donc,
ça s'est terminé par un congé de longue maladie. Parce qu'on n'encaisse pas comme ça la misère du monde. Surtout qu'entre-temps, je suis arrivé papa. Et j'avais commencé le boulot avant. Et quand on voit toute la misère des autres et qu'on croit qu'on l'a assimilé, et on l'assimile, mais il faut pouvoir la rejeter, quoi. Et on ne peut pas la rejeter. Alors, j'ai eu un moment le sport, et puis dès que j'ai été papa, j'avais plus le sport. Parce qu'il n'y avait plus de temps.
Alors, vous savez, Franck...
Vous étiez dans le commercial, et nous avions des horaires complètement décalés, donc moi, j'étais le papa du soir.
Alors, vous savez, je vous ressens encore quelqu'un qui peut être extrêmement dans la sympathie. Et pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir, vraiment, protégez-vous sans pour autant devenir... Attention, quand on est dans l'empathie, ça ne veut pas dire qu'on devient quelqu'un de froid. Au contraire, on va aider encore plus les personnes. Mais ce qui sera vraiment intéressant pour vous, c'est de vous protéger sur le plan émotionnel à l'avenir, parce que manifestement...
Moi, je fais partie... Déjà, j'ai une tendance dépressive, je suis bipolaire, que j'ai un syndrome de bipolarisme. Moi, ça faisait plus de 30 ans que je le disais à mes psychiatres, mais bon, ils passaient outre, ils me disaient « Ouais, c'est bon, vas-y, roule. » Et un jour, jour, j'ai vu dans mon dossier médical que c'était bien marqué et bien daté. Bon.
Est-ce que vous avez écouté le témoignage la semaine dernière d'un auditeur qui nous parlait de bipolarité?
Oui, mais j'en suis pas à ce point-là, moi, parce que c'est qu'un syndrome. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vais mal, ben, j'ai passé ma journée au lit, par exemple. Mais comme je suis à la retraite, ça gêne personne.
Oui, c'est sûr.
J'écoute la radio.
Voilà.
Hein, je fais des mots croisés, des mots fléchés, des sudoku. Je lis des bouquins, des bandes dessinées. J'écoute la télé. Quand je regarde la télé, je me fais à manger. Je fais du jardin sur mon balcon. Mais je suis en vase clos. C'est-à-dire je ne sors pas de la résidence. Je ne sors pas de mon studio.
Vous restez chez vous. Est-ce que...
Je reste chez moi parce que déjà la moyenne d'âge est de 80 ans. Moi, je suis très jeune. Et j'ai toujours vécu avec des jeunes. Même mon épouse avait 7 ans de moins de différence, de 7 ans de différence avec moi. Nous sommes restés 25 ans ensemble. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude de vivre avec des personnes âgées.
Alors, là, ça, vous êtes en train de nous décrire, Franck, l'environnement dans lequel vous êtes actuellement?
Oui.
D'accord. Donc, du fait de ce métier très intense qui... manifestement a eu des effets, on ne peut pas dire, on ne va pas parler de toxicité, mais néfaste sur...
On va dire qu'il m'a bouffé.
Qui vous a bouffé. Vous avez été contrainte d'arrêter tôt. Et aujourd'hui, concrètement, pour comprendre, quelles sont vos limites, entre guillemets? Est-ce que ce sont des limites physiques? Qu'est-ce qui vous arrive pour être dans un EHPAD aussi jeune, si je puis me permettre? Parce que...
Ah non, je ne suis pas en EHPAD. Hein.
Ah, j'ai cru que vous étiez...
Je suis dans une résidence autonome pour personnes âgées.
D'accord.
C'est-à-dire, je sors faire mes courses. Bon, ce matin, je ne suis pas sorti parce que j'avais mon aide ménagère qui venait, mais ça, c'est moi qui le viens. Parce que j'ai besoin d'un regard féminin sur mon studio.
Mmh.
Hein. Et puis de mon petit confort aussi. Hein, il ne faut pas se cacher les choses. Et en même temps de discussion, parce qu'une aide-ménagère, il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui passe le ménage. Hein, c'est quelqu'un qui vous cause, qui vous donne des nouvelles. C'est la gazette en même temps.
Ouais.
C'est intéressant. Mais si,
c'est toujours intéressant.
C'est toujours intéressant d'écouter les autres.
Oui, absolument.
Alors, c'est pour ça que j'ai écouté Christian avec intérêt.
Voilà.
Mais pour lui dire que
pour
dire qu'il y avait deux façons de vivre les choses. Et parce que il y a des fois on a le choix et des fois on n'a pas le choix. Moi par exemple, actuellement, je suis seul. Je suis je ne me sens plus de m'ouvrir beaucoup à la gente féminine parce que quelque part, je reste sur un échec. Il est 25 ans passés, ils ont déjà 10 ans de passé, mais je suis resté sur un échec. Et je sais ce que je disais à mes élèves, qu'il ne fallait pas rester sur un échec.
Mais oui, effectivement, comme disait Gandhi, on n'échoue jamais, on apprend toujours. Et, et en fait, qu'est-ce qui vous est arrivé pour rester dans ce stade où vous vous dites « c'est un échec et je ne fais pas le deuil » ou « je n'ai pas réussi à faire le deuil » Qu'est-ce qui s'est passé?
D'abord, une grande culpabilité. Parce que c'est l'échec, il est dû à moi, c'est-à-dire ma dépression. La dépression ayant entamé en même temps pendant une période d'une vague d'alcoolisme, ça a été chaud pour tout le monde. J'avais un pré-ado et une ado à la maison. Donc, mon épouse, elle a joué les mamans louves.
Oui.
Et elle a eu raison. Moi, nous avons divorcé en bonne entente. Et pendant 10 ans, elle a tenu mes comptes sans que je sois sous curatelle. Maintenant, je me suis mis volontairement sous curatelle parce que je sais que je peux avoir des pulsions comme ça. Pour me faire plaisir, je vais m'acheter 5 bégonias, 30 géraniums et je vais refaire tout mon balcon.
En même temps, quand on vous entend, sincèrement, on se dit mais ça vous fait du bien. Bon, après, vous, vous le mettez sur un acte de compulsion ou de, voyez, mais c'est, l'objectif, c'est justement de vous apporter une sensation de plaisir, de bien-être sur le moment qui,
oui, mais
éventuellement, pourrait, que vous pourriez savourer, finalement, donc qui pourrait durer plus longtemps.
Oui, mais voilà, c'est que j'ai un autre défaut aussi, c'est que je suis capable de remplir mon frigidaire en allant faire des courses, et puis de rester au lit 3-4 jours par semaine, donc pas envie de nourriture, et de balancer de la nourriture inutilement. Et puis en plus, bon, vis-à-vis de mes opinions politiques, c'est négatif, quoi. Moi, je ne suis pas forcément un écolo pur et dur, mais bon, je sais que c'est du gâchis.
Donc,
et après, je culpabilise tout voilà. Ça, voilà.
C'est ce que j'entends. C'est ce
dans
que j'entends.
Dans la fin
donc,
de mon couple et dans ma façon de vivre, il y a souvent le retour de la culpabilité. Qu'est-ce que tu as encore fait de ta journée? Rien. Oh, merde.
Et que vous alimentez, voilà. Manifestement. La culpabilité, vous la nourrissez, vous l'alimentez. Vous allez vous acheter un réfrigérateur complet, vous n'y touchez pas, et puis 3 jours après, vous êtes là à culpabiliser parce que vous jetez les aliments. Elle vous sert à quoi, la culpabilité, Franck?
Je ne sais pas. J'ai toujours pas compris. Pourtant, j'ai suivi la psychothérapie, la TCC, j'ai fait...
Oui.
Bon, au niveau de l'alcool, je m'en suis sorti grâce à des associations d'anti-alcoolisme auprès des hôpitaux. À côté de moi, il y a Nanterre, par exemple, il y a l'ANPA. Bon, ça, ce sont des associations anti-addictives, quelle que soit l'addiction d'ailleurs, pour tout le monde. Il n'y a pas que l'alcool qui est addictif. Hein. Moi, j'ai eu des gens addictifs aux médicaments. Et qui faisait avec une ordonnance qui s'en faisait 5. Imaginez les produits qu'ils pouvaient prendre dedans. J'ai connu des gens qui étaient addictifs au boulot.
Mais l'addiction, ouais, c'est très vaste.
Ils étaient en burn-out après, comme on dit. Hein.
Oui, tout à fait.
Puis ils se plaignent du burn-out alors que tout le monde leur aurait dit, mais arrête un peu. Et j'ai même vu des professeurs partir en burn-out comme ça.
Ou en bore-out. C'est-à-dire qu'en fait... on veut absolument travailler,
il
n'y a rien.
Ils se mettent des charges trop... Moi, par exemple, dans mon travail, j'avais besoin d'avoir un suivi personnel par élève. Une progression par élève. Bon, en plus, c'est un métier qui n'est pas reconnu dans l'éducation nationale. Et je vais vous dire, je n'ai été inspecté sur 30 ans que 4 fois dans ma vie. La première fois pour avoir le droit de rentrer dans l'éducation nationale. La deuxième voie pour avoir le droit de passer le concours de l'école normale, parce que je suis quand même passé par l'école normale. La troisième fois pour avoir mon CAP, mon certificat d'aptitude professionnelle. La quatrième fois pour avoir le droit de rentrer en spécialisation. Et après, je n'ai plus été du tout inspecté pendant 35 ans. Alors, sachant très bien que moi j'avais un copain qui était directeur d'école, et tous les 2 ans ou 3 ans, il faisait faire une inspection à toute son équipe. Donc tout le monde gagnait un demi-point.
Oui.
Moi, c'est pas très grave. J'aime pas un bon rapport à l'argent. D'ailleurs, je le dépense n'importe comment et je gagne comme je peux.
Alors.
Voilà. Et j'ai toujours dit. Aux gens qui se plaignaient de payer des impôts, j'ai dit, moi, plus je paye des impôts, plus je serai heureux.
Oui. En fait, ce qui m'intéresse également chez vous, tout ce qui, comme dans le témoignage de Christian, c'était quand même très intéressant de voir comment il régissait sa vie. Aujourd'hui, vous en êtes où, Franck, concrètement? Donc, vous vivez dans une...
Ah ben là, je suis dans une résidence, j'ai un studio.
Voilà.
Je peux rentrer et sortir à l'heure que je veux.
D'accord.
Je n'ai pas justificatif à donner autre que celui du Covid,
Monsieur.
Ou quoi de la Covid. Mais je suis comme n'importe quel citoyen qui est qui... Alors, sauf que je n'ai pas un bail, j'ai un bilan, un truc de séjour, quoi. Je ne sais plus comment ça se dit exactement. C'est-à-dire que si jamais je déviais à la règle générale, on peut me foutre dehors.
D'accord.
Mais ce n'est pas un bail.
Vous êtes sous curatelle ?
Je suis sous curatelle, mais parce que je l'ai demandé.
D'accord. Et donc, vous suivez un traitement qui est en lien avec votre dépression,
avec, oui, bien sûr.
Avec une bipolarité qui est identifiée, en tout cas un syndrome de bipolarité.
Voilà.
Depuis combien de temps,
mais, ce syndrome ? Oh là, ça dépend des traitements. Il y a... l'alcool, on s'en est rendu compte, quoi, c'est mon médecin généraliste qui m'a dit un jour, tiens, ça ne sera pas Franck, que tu fasses une petite prise de sang. Alors, il dit, bon, bah ouais, pourquoi
allons-y.
Pas ouais. Toubib, puisqu'il me tutoyait, je l'appelais Toubib. Je ne l'appelais pas par son prénom quand même. Et puis, je fais, et puis il me dit, oh, t'as des gros goûts de rouge, toi. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu prends un peu trop l'apéro.
D'accord.
Alors, donc, il m'a envoyé chez un psy qui m'a servi à rien pendant 3 ans parce que...
C'était quoi comme psy ? Un psychothérapeute ?
C'était
un psychologue ?
Non, c'était un psychiatre, mais psychiatre. Qui était en fin de carrière, je pense. On était face à face, je me souviens très bien, dans des fauteuils Voltaire, il me prenait ma carte vitale, il la mettait dans son Apple, je papotais, et il me disait, bon, bah, c'est bon.
Et puis vous rendez votre carte
vitale.
Ça faisait
35 minutes,
voilà,
exactement. Je ressortais, et je vais vous dire ce que je faisais. Je faisais le tour, j'habitais à l'époque Gare du Nord, je sortais par le boulevard de Strasbourg, je rentrais par l'autre rue qui suivait une rue malsaine. Je ne me souviens plus le nom, j'ai dû faire un blocage. Et j'arrivais boulevard Saint-Denis, et le premier truc que je trouvais, je rentrais, je buvais un demi. Donc ça avait servi à tout et à n'importe quoi.
Je voudrais, parce que vous aussi, vous semblez parler de votre bipolarité avec... beaucoup de simplicité et vraiment merci beaucoup de votre confiance et de votre témoignage. Quand on vous a annoncé, Franck, que vous étiez bipolaire, est-ce que
moi,
vous l'aviez...
Moi, je le savais depuis longtemps, ça.
Ah, vous le saviez depuis longtemps ? Alors justement, comment vous l'avez accueilli ?
Je savais bien que j'avais des hauts et des bas. Mmh. Je voyais bien mon frigidaire se remplir. Je vivais déjà seul à l'époque. Hein, ça s'est passé, on va dire, ce début... Cette fin de dépression, quoi, pas cette fin de dépression, mais disons ce début d'alcoolisme. Bon, en plus, sans être caché, parce qu'une fois qu'on vit seul, on n'a plus besoin de cacher la bouteille de whisky ou la bouteille de bière.
Justement, je voulais vous parler de votre épouse. Oui, mais on en parlera après. On a beaucoup,
mais
beaucoup d'auditeurs qui sont...
Mais mon épouse, on peut en parler, parce qu'elle a souffert de ça, mais elle avait déjà souffert de ça avec son papa.
D'accord.
Et elle était un petit peu, elle, dans la reconduction. Moi, je suis aussi d'une famille d'alcooliques.
Mmh.
J'ai 4 oncles qui sont décédés du foie.
D'accord.
Alors, il ne faut pas trop me la raconter. Hein. Donc, un oncle par mariage, mais bon. Mon père qui est décédé d'un AVC quand j'avais 30 ans, il en avait 65, il était à l'avant-veille de sa retraite. Le samedi, il remplissait la voiture pour reprendre le boulot le lundi.
C'est incroyable.
Et il n'avait rien. Ma mère m'a toujours dit, elle m'a survécu 12, 13 ans, 15 ans même après, elle m'a toujours dit, mais ton père n'avait jamais rien prévu, je ne sais même pas ce que j'en aurais fait à la maison.
Oui. Alors justement, je voulais continuer sur la bipolarité parce que encore une fois, vous êtes le deuxième à en parler avec beaucoup, beaucoup d'authenticité. Et encore merci, nous avons beaucoup d'auditeurs qui soit partagent la vie d'un bipolaire ou d'une bipolaire, ou qui sont eux-mêmes atteints de ce syndrome. Donc quand on vous l'a annoncé, donc vous l'avez accueilli de façon presque neutre ou en tout cas voilà, une évidence.
Neutre. Et maintenant, comment je me soigne moi sans comment je continue mes béquilles médicales. Je ne vais pas aller contre la médecine. Je ne me permets pas ça.
Oui.
Mais je suis yogi depuis longtemps et je viens de m'acheter. Je faisais de la relaxation et je viens de m'acheter un CD de méditation.
D'accord. Et vous sentez que ça vous apporte du bien-être?
Énormément.
Vous...
D'abord, ouais. Ça me passe du temps.
D'accord.
Pendant ce temps-là, déjà, ça relaxe. Et ça, je le ressentais déjà avec la musique que j'écoutais et quand je faisais de la relaxation.
D'accord.
Et je me souvenais de la parole, parce que j'ai fait des cures et des post-cures, et je me souvenais, par exemple, relaxation d'une dame qui nous faisait faire ce qu'elle appelait la silhouette.
Là ?
Vous savez, on part du cuir chevelu au milieu.
Oui.
On descend par la droite vers l'oreille, on détend l'oreille, on détend le visage droit, l'œil, etc. Bon.
Et vous appelez ça comment? Parce que je n'ai pas très bien entendu.
Ça s'appelle la silhouette.
Ah, la silhouette. Comme oui. Une silhouette.
Voilà, exactement.
D'accord.
Donc on part du côté droit. Moi, elle partait du côté droit. Moi, je suis gaucher, mais je respectais le côté droit. Et puis on détend. Alors, pour bien détendre quand on ne sait pas détendre, moi, je sais depuis le yoga. C'est qu'il faut d'abord tendre.
Mmh.
C'est-à-dire, on durcit le poing et le bras, et je le fais en ce moment, et puis tout d'un coup, je vais détendre. Et là, comme par hasard, tout est tout mou.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment une technique pour vous qui vous apporte, qui vous fait du bien
énormément.
En tout cas.
Oui,
voilà.
Ah oui.
Ouais.
Moi, je peux passer une heure et quart, une heure et demie comme ça.
Oui, en effet.
À être cool, d'abord, à rentrer. De faire un peu de yoga, de respiration alternée. Bon, je suis asthmatique, donc respirer par le ventre, je sais faire. Je respire comme une femme enceinte.
D'accord.
Donc, j'ai bien aidé mon épouse pendant les deux accouchements. J'étais du côté de la tête de mon épouse. Elle savait respirer, il n'y avait pas de problème.
Je voulais savoir, justement, par rapport à votre épouse... Comment ça s'est passé? Est-ce que je vais arrêter les questions mitraillettes, je vais y aller une par une. Donc, comment ça s'est passé avec votre épouse par rapport à cette bipolarité? Vous disiez que son papa était déjà, en tout cas, malade.
Dépressif.
Voilà.
Ouais.
Mais ensuite, c'est pour vous, pour votre couple, qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est... Bon, ça peut être l'usure du couple. Moi, j'ai encore relu là, dans notre temps aujourd'hui une histoire sur la sexualité des couples qui vieillissent.
Mmh.
Ça peut être aussi le manque de compatibilité sexuelle. Moi, j'avais vécu mes 30 ans pendant les années 80 à l'école normale. Donc, j'avais été multi-relationnel, sans problème, etc. Elle avait été réglo. Et puis, quand je l'ai rencontrée, moi, j'ai été réglo. Ça, c'était total, pendant 25 ans. Mais j'ai eu des envies et je me suis rendu compte. Et là, quand je relis l'article de notre temps, je nous reconnais complètement. Le fait de la femme qui peut pas dire non parce que autrement ce serait se sentir diminué, pas non désiré, etc. Pas sachant répondre au désir, etc. Bon, toute une perturbation et qui fait que à un moment je me suis retrouvé sur le canapé.
Oui.
Pour lui foutre la paix.
Alors,
et puis,
pour bien sûr, pourquoi
une fois sur le canapé, j'ai même augmenté ma consommation d'alcool, forcément. Parce que, à la limite, hein, on disait le bromure à l'armée, mais l'alcool, il n'y a pas mieux. Hein.
D'accord.
Plus les antidépressifs, plus l'alcool, la libido, c'est fini hein, pour les garçons.
Et vous pensez que c'est ce qui a provoqué votre séparation? Non, il ne veut pas que ça.
Oh, il y a en partie de ça. Et elle a eu peur pour mes enfants.
D'accord. Parce que vous faisiez des crises, donc c'est l'alcool.
Oui, c'est comme ça qu'elle me l'a expliqué. Et c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est comme ça que c'est entendu avec les enfants, que je vois régulièrement. Je suis papy depuis 11 mois. Voilà. Quoi,
Félicitations.
bientôt 11 mois. Et avec mes enfants, ça marche bien. Sauf mon fils, là, qui vient d'avoir son premier chagrin d'amour. Bah, je lui ai dit, écoute, mon pote, bienvenue au club. Moi, je m'en suis chopé bleu. Si j'avais collectionné tous les râteaux, je pourrais faire du jardinage à Versailles.
Mais par rapport, alors, c'est intéressant parce que par rapport au râteau ou en tout cas
Oui.
la rupture de votre fils et ce sentiment d'échec que vous n'avez pas réussi à surmonter, est-ce que
Non,
néanmoins.
non, non. Non, c'était comme une forme de rejet. D'abord parce que je n'ai pas
Oui.
su retrouver mon appartement. C'est elle qui l'a retrouvé par extranet, puisqu'elle travaillait dans une grosse boîte. Et je me suis retrouvé dans le 20e ou 4e étage sans ascenseur, alors qu'on a pété un appartement Haussmann. Bon, c'est pas le luxe hein, qui m'intéressait, parce que Haussmann chauffait 32 mètres de hauteur. Je peux vous dire qu'avec des radiateurs électriques, quand ta facture d'électricité
Oui, c'est
arrive, vous
sûr, oui.
pleurez.
Oui,
Vous
absolument.
n'êtes pas fier.
Et des deux
Puis
yeux
vous
en
pouvez
plus.
baisser le plafond ou dormir dans un hamac au plafond, ça serait bien. Mais
Non,
bon.
j'essayais à travers ma question, j'essayais surtout de comprendre et surtout de faire en sorte de partager ce qui vous est arrivé auprès de nos auditeurs et moi-même, hein, parce que clairement, c'est toujours
Alors.
extrêmement intéressant, instructif quand on vit avec quelqu'un. Qui est bipolaire, comment est-ce que on peut l'aider? Est-ce que c'est possible de l'aider?
Je sais pas. Je pense que d'abord, moi j'ai mis du temps à comprendre que je l'étais, et la médecine a mis encore plus de temps à accepter que je le sois.
Oui.
Alors, je peux pas demander plus à mon épouse, hein, quoi, à mon ex-épouse, qu'elle ait mis 10 ans à comprendre, vu que les psys refusaient de le comprendre. Et même mes alcoologues, non, 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 tout va bien, c'est pas un problème. Je repassais tous les 6 mois au centre de sevrage, non, non, il n'y a pas de problème. Bah, j'ai quand même un problème là. J'ai quand même pas loué ma chambre à vie ici, moi.
C'est sûr.
Et puis surtout que moi, pendant un moment, j'ai continué à travailler, et puis après, quand j'ai redemandé des postes de reclassement à l'éducation nationale, même dans les bureaux, faire des photocopies, faire n'importe quoi, de la mise sous enveloppe.
De vous occuper, en fait, surtout.
Ouais,
Oui.
m'occuper, surtout pas être à la maison.
Voilà.
Eh bien, ça m'a été refusé. J'ai fait des demandes de volontaires. J'avais une maison de retraite, d'ailleurs, juste à côté de moi. J'ai fait des propositions comment dire, auprès d'une maison de retraite, d'animation. Eux, ils ne connaissaient pas du tout mon dossier médical. Et je leur ai proposé de faire de la gym douce, comme nous, on appelait ça en centre d'alcoolologie, le réveil du corps. Vous savez, quand on bouge
Tout
les
à fait.
articulations, des
Absolument.
chevilles, des poignets, des trucs comme ça peut se faire assis, il n'y a pas besoin d'être debout. Hein. Et puis, je disais toujours, avec la personne. Une personne compétente qui surveille tout ce que je fais. Ça avait été accepté, et puis tout le projet au mois d'août est tombé à l'eau parce qu'il y a eu un changement de direction. Et là, je me suis retrouvé, alors là, juillet et août dans l'eau, et depuis, je ne suis jamais parti en vacances. C'est-à-dire que ça faisait 15 ans que je disais que, quoi, ça faisait 12 ans que je disais que je n'avais pas dépassé le périph. Maintenant, ça fait 17 ans. Je n'ai pas dépassé la A80.
D'accord, donc là, ça. Ah oui.
Moi qui passais toutes mes vacances dehors, parce que je faisais mes colonies de vacances en tant qu'enfant,
Oui.
j'allais au bord de la mer, j'avais ma marraine qui me payait les cours de ski, parce que ce sont ma mère et ma marraine, c'est la sœur de ma mère, elles sont vosgiennes. Donc le ski, c'était important.
Bien sûr.
La montagne, c'est important. En plus, elle était devenue savoyarde de ma marraine. J'ai fait du ski, j'étais moniteur de beau diplôme en ski, j'ai le même diplôme en voile, mais maintenant, je n'ai pas revu la mer, je n'ai qu'un rêve, c'est foutre des orteils dans le sable.
Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller aujourd'hui, maître?
C'est d'y aller tout seul. C'est d'y aller tout seul, c'est de ne pas pouvoir partager.
Alors ça fait, de ce que je comprends, 10 ans que vous êtes seul, c'est ça? 10 ans?
Bon, plus, 15
plus
ans.
15 ans?
Oui, j'ai même un lit 90, si vous voulez savoir.
Et est-ce que l'idée vous prend parfois de vous dire « j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien partager ».
Mais j'ai essayé, disons dimanche, mais là, je me suis fait avoir parce qu'en fin de compte, disons dimanche, quand on joue un petit peu à ce jeu-là, et ben on tombe sur Mythique. Et Mythique, ce n'est pas du tout le même problème. Alors, moi, je vais vous dire, le premier rendez-vous qu'on m'a proposé quand j'en avais 64 à l'époque, 64 ans, il y a 2-3 ans, et c'était une femme architecte de 40 ans qui vivait dans Paris dans le 5e.
Oui.
Moi, j'étais à la retraite. Donc, j'avais un demi-salaire d'enseignant et je vivais dans une résidence pour personnes âgées.
Alors déjà, si on commence par bien retenir le nom du site, ça peut être pas mal. Parce que si vous tapez sur Internet, disons dimanche, vous aurez du mal à rencontrer, enfin à tomber sur un site de rencontre. C'est disons demain.
Ah, c'est disons demain, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est disons demain. C'est ce site pour les personnes de plus de 50 ans. C'est la cible, hein, c'est ça?
Oui, c'est peut-être celui-là que j'avais fait. Hein. C'est peut-être
voilà.
Que je me trompe entre
c'est
temps.
Disons
parce
demain,
que...
parce que disons dimanche, oui. Là, c'est peut-être encore autre chose.
Oui, non, mais oui, peut-être que je me suis trompé à l'époque, mais je ne crois pas parce que j'avais le lien à un moment, et même à un moment, quand on m'a demandé 30 euros, moi, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai jamais payé pour rencontrer quelqu'un.
Je crois que c'est le principe des sites de rencontre, hein, Franck.
Ça peut être le rôle administratif. J'ai travaillé dans l'associatif. Je sais qu'il y a un moment où vous payez un droit d'entrée.
Alors, vous qui avez travaillé dans l'associatif, hein, je pensais à ces groupes de parole. Est-ce que vous avez déjà été dans des groupes de parole, soit pour l'alcool ou soit pour la bipolarité?
Alors, pour la bipolarité, non. Et pour l'alcool, j'ai toujours refusé parce que j'ai eu des retours très, 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 très mauvais. Et d'une part, par mes alcoologues, entre autres d'Alcool Anonyme, où c'est la culpe, quoi, des gens qui me connaissaient. Hein. Je ne dis pas pour tout le monde, mais... Moi, je suis carrément... Alors là, le monsieur Christian est indépendant, etc. Moi, je suis carrément anarchiste, libertaire, mais autogestionnaire. C'est-à-dire que si c'était possible, je serais autogestionnaire.
C'est-à-dire? Dites-nous ce que vous mettez
derrière
autogestionnaire.
Je n'ai pas besoin de hiérarchie. Je ne suis pas nihiliste.
D'accord.
Je sais qu'il faut une société, mais je ne vois pas pourquoi elle serait gouvernée par... 50 grades qui descendent depuis le président, entre ministres, vice-ministres, conseil des ministres, machin, bidule, député, truc, machin, maire, conseil général, etc.
Oui.
Jusqu'à arriver à directrice de ma résidence.
Alors,
là, c'est carrément la pyramide à l'envers. Là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous nous donnez plutôt une approche qui est sociétale, qui est... La définition de l'indépendance chez Christian, c'était plus dans son comportement, à savoir, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, et je suis surtout quelqu'un de libre. Donc il a déménagé plusieurs fois, etc. Vous, est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'éventuellement, cette liberté de penser, cette liberté finalement de redevenir ou de devenir acteur de votre vie? Est-ce que c'est quelque chose
non, non, justement, moi, je reste, c'est là où je bloque, parce que là, je dois reconnaître que j'intellectualise trop, je suis hypersensible, et je vais être libre jusqu'à la pensée, la lecture, la parole, l'écriture même. Hein, mais après, le passage à l'acte, ça, je sais que ça me fait peur.
bloqué par vos valeurs, peut-être, et puis ce sentiment de culpabilité dont vous parliez.
Oui, sûrement.
Ouais. Parce que
ça doit être ça, parce que je vois pas autrement. Éducativement, j'ai jamais été bloqué. J'ai pas forcément répondu au monde scolaire de mes parents, mais je m'en suis bien sorti. Parce que mon père aurait voulu que j'aille à la fac. Donc moi, j'ai dit, écoute, je vais déjà pas au lycée en terminale. Comment tu veux que j'aille à la fac?
Oui.
Je me suis présenté au bac, j'étais en étudiant libre. J'avais même pas le droit à mon dossier scolaire. Et je l'ai eu, mon bac du premier tour. Je lui ai dit, de toute façon, je passe pas les oraux parce que je suis en colonie de vacances. On m'attend.
Oui.
Et mon père était inspecteur d'académie. Hein.
Ah oui,
donc
plus,
je pense que
oui,
j'avais quelque chose à combattre avec mon père.
Alors justement, je voulais savoir, vous qui avez suivi des thérapies quand même, qu'est-ce que vous en êtes où par rapport à ce sentiment de culpabilité qui ne sert à rien, et je crois que vous le savez mieux que personne, hormis vous mettre dans des états ou alors de vous bloquer ou alors de ressasser, parce que quand on culpabilise, mon Dieu, on est en disque rayé au final. On est en disque rayé.
Disque rayé, comment vous expliquez ce mot? Parce que là, je n'ai pas mon vocable.
Le disque rayé?
Oui.
Eh bien,
le parler simplement pour ronder.
Alors, le disque rayé, bien évidemment, ce n'est pas l'idée que je me mets à discuter et puis tout d'un coup, Là, c'est un disque rayé. Non, c'est pas ça. Je vais pas me mettre à bégayer. Le disque rayé, c'est tout simplement penser à quelque chose et puis finalement se dire « j'y arrive pas ». Et puis y repenser et se dire « si c'est arrivé, c'est parce que je n'arrivais pas à » ou parce que... Et c'est ce que vous avez, vous, résumé en disant « j'intellectualise les choses » ou « je cérébralise les choses ». Donc forcément, on revient dessus forcément. Et on revient dessus forcément, ça crée une forme d'amertume, de rancœur. Et c'est ça, être en disque rayé. C'est on tourne en rond constamment et on n'arrive pas à trouver l'issue finalement.
Ben vous mettez le doigt dessus parce que j'aurais dit, moi, un deuxième adjectif, c'est en me serrant. J'aurais dit, je suis pronastique. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, ça sera fait peut-être demain.
Ah, vous procrastinez, d'accord.
Procrastinez, oui.
Je comprenais pas le... Oui, la procrastination. Donc, vous remettez tout...
J'ai dit un G, c'est un C. D'accord,
procrastiner, c'est remettre à demain. Voilà, ouais. C'est remettre à demain... Est-ce que nous pourrions
faire
aujourd'hui?
Absolument. Voilà, ça, c'est sans arrêt.
C'est le paradis des paresseux.
Heureux des paresseux.
Absolument. concept de laborie, d'ailleurs, hein, la procrastination.
Heureux, et moi, j'ai toujours dit à mes élèves, intelligent des paresseux.
C'est ça. Bon. Donc, ce grand anesthésiste français.
Moi, tu peux en faire
et
tu réussis. Ouais. Pourquoi tu en ferais plus?
Donc la procrastination, oui, c'est de remettre au lendemain. Oui. Mais ça fait du bien en même temps, hein. Ça fait du bien de procrastiner un petit peu. Enfin,
voilà. Ça repose.
Oui, ça repose.
Mais ça fait partie de ma période. Par exemple, je peux me permettre une méditation, sachant que j'ai des géraniums à planter. Si je sais que mes géraniums sont protégés, qu'ils sont dans la flotte et qu'ils attendent, ils peuvent attendre 12 heures de plus. Dans la vie d'un géranium, ce n'est pas 12 heures qui va durer. Moi, je ne vais pas faire une méditation de 12 heures.
C'est certain, mais face aux difficultés ou aux problèmes que l'on rencontre, procrastiner, ça va, mais quand c'est trop, ou
c'est trop,
ça devient une fuite en avant.
Oui, mais c'est ça. Et je crois que vous avez raison, là, vous touchez le truc, qu'il faut que je retravaille, je vais d'ailleurs le noter, la culpabilité et le passage à l'acte.
La culpabilité, le passage à l'acte, ce qui peut être intéressant déjà pour vous, c'est libérer la parole. Vous voyez, vous libérez les chakras quelque part en faisant de la méditation, c'est très très bien. quand on vient vous voir, libérer la parole parce que ça permet de ne pas ancrer les mauvaises pensées. C'est important. Et d'ailleurs, la libre antenne, c'est ça, c'est libérer la parole. On est là vraiment pour vous aider, sans jugement. Donc c'est important, ça fait du bien de libérer la parole. Et puis ensuite, quand vous êtes face à une difficulté, qu'elle vous semble insurmontable, vous avez le droit de vous poser la question, et si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est une façon de vous projeter. Mmh. Et puis peut-être d'avancer.
Je suis content d'avoir fait appel à vous parce que je vous écoute tous les deux, Olivier et vous, et puis même avant...
Sabine
depuis les...
Sabine, ouf,
Sabine.
Oui, c'est surtout Sabine, Sabine Marin et Olivier.
Ah oui, Sabine Marin, Olivier, mais j'écoutais aussi à Marine Dublanche, etc.
Oui.
Je suis insomniaque en même temps. Alors bon, moi, ça ne me gêne pas. Mais j'avais choisi ce week-end pour avoir affaire à quelqu'un de plus technique que sociologique. Parce que je pense que Olivier est très bon en sociologie. Je pense tout à fait comme lui. Je suis toujours en osmose avec lui. Je dirais rien de plus, rien de moins que lui. Mais je pense que ça n'amènerait pas grand-chose. Que là, vous avez touché deux choses importantes. Et je les ai notés.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour nous, Franck. Un grand merci. Vous pourrez réécouter.
Moi, je dis merci à tout le monde et à l'écoute. Et puis, si ça peut avoir servi à quelques-uns.
Oh, certainement.
Je pense que, de toute façon, le bipolarisme, c'est quelque chose qu'on peut tempérer par soi-même déjà, par son propre comportement, en faisant une liste de courses déjà, ne serait-ce qu'une liste de courses.
Tout à fait.
Comme ça, vous ne remplissez pas votre frigo, hein,
oui.
Parce que moi, c'était mon cas. Deuxièmement, à la limite, quand on y arrive à faire un planning, mais ça, c'est du mal de remplir, et des fois, ça peut être culpabilisant, parce que vous ne mettez que des croix rouges au lieu de mettre des croix vertes. Et ce n'est pas forcément le conseil que je donnerais. Moi, je pense qu'il faut mieux se faire confiance à soi-même et
c'est le plus important, oui, se faire confiance.
Oui, plutôt que de l'écrire. Parce que moi, on m'avait donné comme idée d'écrire mes plannings. Et je me rendais compte qu'à la fin, j'arrivais qu'il y ait des croix rouges.
Surtout, vous réécoutez notre échange demain en podcast, dès demain. Notre
pas
échange
problème.
Sera en podcast, voilà, et puis ça vous permettra de continuer à avancer. Bonne continuation, Franck. J'espère, je vous souhaite le meilleur pour la suite et à très très bientôt. J'espère.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir, madame.
Prenez soin de vous.
Au revoir, vous autres.